Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la mairesse Valérie Plante serait victime d'un deux poids, deux mesures dans la manière dont les médias et les commentateurs évaluent son travail parce qu'elle est une femme. C'est la thèse que défendent deux doctorantes en sciences politiques, Catherine Sullivan et Alexis Labelle, avec qui je m'entretiens. Mais d'abord, parlons d'un livre sur l'identité québécoise écrit par une de mes collègues reporters ici à l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
Ma prochaine invitée publie en mars « Who belongs in Quebec? Identity and in a changing society » chez Linda Leith Publishing. C'est Raquel Fletcher, la correspondante du réseau Global à l'Assemblée nationale. Bonjour.
Bonjour.
Donc, votre livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, c'est une sorte de chronique des années Couillard-Legault. Votre expérience de reporter à l'Assemblée nationale depuis décembre 2015. Donc, avec la question de l'identité qui est toujours présente, lancinante, même irritante, on sent que vous êtes quasiment irrité par la question de l'identité. Vous avez une relation amour-haine avec cette question-là?
Oui, en fait, parce que c'est une question que j'ai abordée ou qui m'a été présentée, en fait, quand j'ai déménagé au Québec.
OK.
Puis c'était pas nécessairement une question que j'ai abordée dans l'Ouest. Tu sais, je me suis jamais posé la question par rapport à l'identité saskatchewanaise.
Non.
Tu sais, le nationalisme.
Mais l'identité canadienne est soulevée souvent.
Ben oui, mais d'une autre façon.
OK.
Ou peut-être c'est moins fort.
Ah oui?
Ouais. C'est mon identité canadienne, je prends ça pour acquise.
Ah, OK. Moi, j'ai comme l'impression quand même que le Canada anglais, surtout avec des publicités comme « I am Canadian », je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publicité-là.
Ouais, la bière.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Surtout avec les débats sur le libre-échange, sur la fin peut-être possible du dollar canadien, qui a quand même des...
Oui, ça c'est vrai. C'est par rapport...
Qui a une peur de d'une préemption de l'identité américaine sur l'identité canadienne anglaise surtout.
Exactement. On est peut-être menacé par l'identité américaine.
C'est ça.
Mais
c'est moins dur que...
C'est pas la même question.
C'est moins aigu que...
Ouais, c'est pas la même question du tout que l'identité québécoise, parce que l'identité québécoise, ça existe à l'intérieur de l'identité canadienne.
Mm-hmm.
Puis aussi, je pense qu'il y a une fierté d'être québécois et pas américain. Puis... L'identité canadienne, ben moi, ça, c'est mon opinion, c'est basé sur
Vous avez
mon
le droit
expérience.
Ici à Cube.
Ouais. Je veux pas insulter personne, mais c'est une question différente, je pense.
Mm-hmm.
Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé intéressant comme journaliste. C'est une question qui se pose tout le temps, puis c'est vraiment présent. L'identité est vraiment un enjeu politique qui est toujours un peu présente dans la politique québécoise et c'est important pour le public québécois. Mm-hmm.
Vous faites ressortir que ça a beaucoup d'effets collatéraux. Puis, j'ai comme eu l'impression que la tuerie de la mosquée, c'était un effet collatéral du débat sur l'identité. C'est dans votre livre. Est-ce que j'ai raison?
C'est sûr qu'il y a un lien. Puis, surtout avec, je dirais, les chroniques médiatiques peu après la fusillade, il y avait beaucoup d'animateurs à la radio qui ont dit peut-être on aurait dû donner plus d'espace aux musulmans sur les ondes. Il y avait une réflexion nationale, je dirais, par rapport à la responsabilité collective. Puis ça, c'est ce que j'aime du Québec. Il y a toujours cette réflexion collective. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la nation québécoise? Qu'est-ce qu'on peut faire comme un peuple? Mais en même temps, c'est difficile de définir un peuple. Hein? C'est difficile de définir une nation. Qu'est-ce que c'est une nation? Qui appartient à cette nation? Comme anglophone, puis...
Juste revenir sur la mosquée.
Ah, désolé.
La tuerie de la mosquée, vous démontrez quand même que le tueur s'abreuvait pas du tout aux médias québécois. Il était pas dans le débat québécois du tout. Je trouve que vous démontrez que, au contraire, l'identité, il ignorait ce débat-là. Il s'abreuvait au alt-right américain. C'est l'élection de Trump qui a été comme un déclencheur chez lui. C'est le Muslim ban aux États-Unis. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un lien? C'est la question que je me suis posée en lisant le chapitre qui est très exhaustif et très intéressant sur la tuerie de la mosquée. Parce que vous avez assisté au procès, ça faut le dire.
Oui,
c'est ça que je trouve intéressant dans votre livre, là, c'est que vous nous faites revivre tout ça et vous l'avez vécu de première main. Là. C'est un vrai témoignage.
La question que vous me posez, en fait, c'est qu'est-ce que le tueur a pensé?
Oui.
C'est qu'est-ce que... c'était quoi le déclencheur pour lui, qui est une question que moi, je peux pas répondre parce que je suis pas dans sa tête à lui.
Non, bien sûr.
Mais ce que j'ai aussi vécu en couvrant le procès, c'est la réaction de la communauté.
Ouais.
C'est ça que je voulais présenter aussi.
Okay.
Alors, j'espère que j'ai présenté cette perspective de... Comment est-ce que c'était possible à Québec qu'un tueur existait et qu'il a fait à Sainte-Foy? Ça, c'était la réflexion collective qu'on avait.
Une des villes les plus sécuritaires au Canada, vous le dites-vous, vous le soulignez.
Oui, puis près de l'Université Laval, qui est un endroit, je ne veux pas dire multiculturel, mais vous savez ce que je veux dire, un endroit. Avec beaucoup de diversité, comment ça peut arriver là, dans ce quartier-là. Puis, c'est le...
Mais je trouve que vous démontrez tellement que lui avait... Même, vous citez tous les sites web que lui a consultés avant d'aller commettre l'irréparable. Et c'est juste des trucs américains.
C'est intéressant.
Donc, je vois pas le lien avec le débat sur l'identité au Québec. Ouais.
Mais ce que j'ai voulu démontrer dans le livre, c'est les choses qui sont arrivées après, puis la réflexion qu'on a eue comme une nation après ça, qui était fortement liée à la...
Là, il y avait des liens qui étaient faits avec le débat sur l'identité, notamment les signes religieux.
Oui, et les places des musulmans dans la société québécoise.
C'est ça. Donc, vous baignez dans notre actualité depuis 5 ans. La question que j'ai envie de vous poser, c'est celle que vous soulevez, mais à laquelle vous répondez pas vraiment. Les Québécois sont-ils moins tolérants que les autres Canadiens?
Encore, je sais pas si je suis arrivée à la réponse à cette question. C'est ça. Ben, c'est un spoiler, Antoine, la conclusion. Ce que j'ai conclu, en fait, on a deux parties. On vit dans cette dichotomie, si je peux dire ça comme ça.
Mm-hmm.
On vit avec cette question forte au sujet de l'identité. Qui sommes-nous? Mais aussi, on vit dans une société Je présente les exemples du monastère des Augustines, la maison de la littérature.
Oui, vous avez été impressionné par le monastère.
Super impressionné. Oui. Puis c'est un projet exemplaire de la laïcité. C'était un monastère dans le passé. C'est toujours un monastère, mais maintenant c'est aussi un centre de la santé reconnu à l'international qui accueille tout le monde.
Quel lien faites-vous avec l'identité? Alors, c'est qu'il y a une préservation de quelque chose comme le patrimoine, comme un lien avec le passé religieux?
Mais c'est un gros projet. Alors, ça ne peut pas être fait par une personne ou une propriétaire. C'était vraiment un projet collectif qui a été fait un peu naturellement. On a décidé de faire ça. Les gens qui ont embarqué dans ce projet, un peu comme la Maison de la littérature, qui était aussi une église à l'époque, ils ont fait ça, puis tout le monde l'a accepté. Personne n'a dit, pourquoi est-ce qu'on préserve nos églises? Alors, c'est un peu naturel. Mais d'une autre façon, on a peur de perdre notre identité. Alors, j'ai trouvé...
Vous voyez une sorte de métaphore du débat?
Oui, j'ai trouvé une métaphore, mais aussi, moi, je pense que ça, c'est ma philosophie humaine, que, tu sais, on est tous les saints et on est tous les pécheurs. Tu sais, ça dépend du côté de la médaille. Puis, il y a deux côtés de la médaille pour ce débat-là. Tu sais, on a intuitivement, comme Québécois, il y a quelque chose d'intrinsèque. C'est, on fait ça intuitivement. Il faut préserver nos passés, il faut préserver la culture, la langue. Mais il y a une autre partie qui est plus basée sur la peur ou la menace des autres cultures. Puis même dans le discours du premier ministre Legault, qui a dit « je veux créer une vallée d'innovation entre Montréal et Québec et je veux... » Je veux créer une place qui est reconnue à l'international pour nos innovations parce que les Québécois sont super innovateurs. Puis il cite l'exemple de Silicon Valley, qui est aux États-Unis, où la majorité des gens qui travaillent dans la Silicon Valley ne parlent pas anglais comme langue maternelle.
Je vous ai lu là-dessus, puis je me suis dit pourquoi c'est contradictoire. Il y a une identité américaine qui est une sorte de creuset, de melting pot, comme on dirait. Pourquoi le Québec ne deviendrait-il pas un melting pot, des gens où ça se passe en français, par exemple?
Ça se peut. Ben, moi, je suis pas contre ça.
Pourquoi c'est contradictoire? Parce que c'est pas mal, depuis la loi 101, c'est pas mal comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens de toutes les origines. Déjà, l'Assemblée nationale est assez diversifiée. Je comprends pas pourquoi c'est...
Il faut décider, Antoine... Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un melting pot où tout le monde est attiré au Québec, puis on parle français au travail, puis on retourne chez nous, puis on parle nos langues maternelles au foyer, dans les maisons, puis on enseigne nos langues culturelles à nos enfants? Ou est-ce qu'on veut vraiment une culture où le français est notre langue maternelle?
La loi 21... Vous en parlez, vous soulevez toutes sortes d'oppositions qu'elle a suscitées. Est-ce qu'elle est intolérante?
Ben, il y a des gens qui disent oui, puis il y a des gens qui disent non.
C'est ça.
Moi, c'est ce qui...
Mais vous, j'ai comme senti par toutes les références que vous aviez que vous tendiez plus vers le oui.
Que c'est intolérant.
Oui.
J'ai essayé de garder mon opinion là-dessus pour moi. Parce que ce qui me fascine...
Mais le lecteur peut percevoir.
Le lecteur peut deviner. Mais ce qui me fascine et ce que je voulais aborder dans le livre, c'est les deux camps. Alors, pour répondre à votre question, pas comme une politicienne, mais comme...
Oui, c'est ça.
Comme pour donner une vraie réponse.
Pardon, je vous mets un peu dans un... on dit en anglais, un hot seat, là, pardon.
Oui, c'est ça. Moi, je suis au milieu. Tu sais, il y avait des gens qui m'ont convaincue de chaque bord, alors je me trouve vraiment au milieu.
Sentez-vous que vous êtes québécoise maintenant?
Moi, je vous me écoute, considère...
Vous dites des « nous » des fois, oui?
Moi, je dis « nous ». Moi, je me considère québécoise. Votre public... va entendre mon accent, puis ils vont peut-être dire que je suis pas québécoise, mais J'ai acheté une maison ici, je vis ici. Je parle français à la maison. J'ai deux chiens. Je dis assis, couché à mes chiens. Si je suis pas québécoise, je sais pas ce que je peux faire pour devenir plus québécoise.
Ah oui, c'est ça. Mais à la page 111, vous dites, à quelque part, le seuil de l'identité au Québec, c'est l'accent. Quand on n'a pas l'accent, on n'est pas...
On est remarqué comme on n'est pas né ici.
Ouais. Est-ce qu'on est expulsé à ce moment-là de l'identité?
Ben Antoine aussi, je suis une femme blanche, alors je reconnais mon privilège là-dessus. Puis je suis aussi canadienne, alors j'ai le droit de vivre partout au Canada. Mais des fois je trouve ça drôle, mais des fois je trouve ça triste quand les gens me disent, ben vous venez d'où? Cet accent vient d'où? Ben cet accent, ça vient de
Saskatchewan.
De la Saskatchewan, mais aussi de la Pocatière, parce que j'ai appris mon français à la Pocatière.
Ah, OK.
Alors, ça vient de Québec, parce que je vis à Québec, mais ouais. Ça vient de la France, parce que j'ai voyagé en France, j'ai voyagé en Afrique. Alors, d'où vient cet accent?
Eh bien, merci, Raquel Fletcher, pour cet entretien. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, de « Who Belongs in Québec? » Identity Politics in a Changing Society. C'est publié chez Linda Light Publishing. Raquel est correspondante parlementaire ici à Québec pour le réseau Global. Vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Antoine Robitaille.
Le philosophe de la politique.
La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
Vous écoutez Là-haut sur la colline.
Les critiques actuelles adressées à la gestion de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, seraient la preuve que les femmes en politique font l'objet de l'éternel deux poids, deux mesures. Ces critiques auraient donc un biais genré, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire seraient plus dures avec les femmes. C'est ce que concluent mes deux invités, Catherine Sullivan et Alexis Labelle, toutes deux doctorantes en sciences politiques à l'Université de Montréal. Elles ont publié un texte dans The Conversation intitulé « Madame Sourire, que dit la couverture médiatique de Valérie Plante ». Bonjour Catherine et Alexis.
Bonjour. Bonjour.
Donc, qu'est-ce qui vous conduit à cette conclusion, Catherine, qu'il y a un biais genré à l'égard de Valérie Plante?
Le biais genré existe depuis longtemps. Et on a pu voir même pendant la campagne électorale entre Denis Coderre et Valérie Plante qu'il y avait déjà un biais genré. J'avais d'ailleurs regardé un peu une couverture médiatique à l'époque. On parlait beaucoup de son sourire, de ses vêtements. Même récemment, il y a eu tout un article sur le mari de la mairesse et à quel point il devait prendre le relais à la maison et que c'était inhabituel que la femme ne soit pas là. Mmh. Donc, c'était pas trop surprenant ce qu'on a pu voir. En fait, c'était Alexis qui a eu l'idée de faire ce projet de recherche à la base.
Ce biais-là quand même, ne l'a pas empêché de gagner, Alexis, aux dernières élections.
Non, effectivement. Il faut dire aussi qu'aux dernières élections, il y a une partie de la population pour qui c'était la première fois qu'ils votaient aux élections municipales. Donc, il y a aussi eu je pense qu'il y a quand même eu un effet momentum avec Valérie Plante, où il y a eu plusieurs premiers électeurs. Je pense qu'il a sans doute contribué à son élection. Donc, il y a quand même eu un effet Valérie Plante. Puis même, bon, moi, je travaillais un peu plus auprès des militants LGBT, puis j'ai fait plusieurs entrevues avec des militants où je leur demandais s'ils votaient aux élections municipales. Puis la grande majorité d'entre eux ont répondu que c'était la première fois qu'ils votaient et ils votaient pour Valérie Plante parce que c'était Valérie Plante. Okay. Donc, je pense qu'en dépit d'un biais genré dans une certaine couverture médiatique, et dans certains propos qu'on pouvait tenir à son égard. Je pense qu'il y a quand même eu cet effet-là qui a contribué à son élection.
Et vous, une de vous deux ou les deux, avez-vous milité pour Valérie Plante, son parti ou des candidats?
Non.
Non?
Pas moi. Je m'étais intéressée au début, mais je me suis retirée justement à cause de la recherche.
Ça, c'est Catherine qui parle. OK, parfait. Dites-moi, quand on parle de l'apparence des politiciennes qu'on scruterait plus avant, vous donnez l'exemple de Hillary Clinton, j'ai pensé à ça, mais je me suis dit, mon Dieu, mais on regarde énormément l'apparence de Justin Trudeau. On parle de ses cheveux, on parle de ses chaussettes. Puis on pourrait dire aussi la même chose pour Donald Trump. On parle toujours de ses cheveux, de son visage orange, de son côté obèse. Est-ce qu'il y a vraiment un accent plus grand mis sur l'apparence des femmes que les hommes? Parce que, je veux dire, dans les dernières années, c'était manifeste qu'on regardait énormément l'apparence des hommes. Et je vais demander à Catherine de répondre.
Dans le cadre de ma thèse, en fait, je m'intéresse beaucoup aux stéréotypes genrés autant vers les femmes que les hommes. Et il y a quand même un phénomène assez intéressant où les hommes vont aussi souffrir de stéréotypes qui vont à l'encontre de ce qu'on perçoit comme étant un homme en société actuelle. Donc, Justin Trudeau est en fait souvent utilisé comme exemple parce qu'il n'est pas perçu comme étant assez masculin, un peu trop féminin. Donc, on va lui reprocher cela. Et c'est pour ça qu'on regarde son apparence, parce qu'on le compare aux femmes et le fait d'être féminin comme étant une lacune plutôt qu'une force.
Alexis?
Ben pour ajouter au point de Catherine, je pense qu'effectivement, l'apparence des hommes est autant scrutée, peut-être pas avec la même loupe que celle avec laquelle on scruterait l'habillement des femmes. Puis je dois dire, encore une fois, les femmes, souvent, dans l'analyse de leur apparence, vont être un peu dans un catch-22, dans la mesure où si elles ne répondent, elles doivent soit trop correspondre aux idéotypes féminins, puis si elles correspondent trop aux stéréotypes féminins, souvent, bon, elles ne sont pas perçues nécessairement comme des politiciennes, parce que la politique est très dominée par les hommes, ou du moins la façon de faire des politiciens. Et à l'inverse, lorsque les femmes s'apparentent trop à un style vestimentaire masculin, ben elles sont tout autant critiquées, comme si on leur demanderait finalement d'avoir l'air plus féminine. Donc, elles doivent toujours naviguer entre ces deux extrêmes, et elles sont souvent punies dans les deux cas. Mm-hmm. Alors que, comme l'exprimait Catherine, sans qu'un homme correspond aux idéotypes de la masculinité hégémonique, la masculinité plus mainstream, si on veut, ben ils sont corrects. Okay. D'une certaine façon, ils ne sont pas autant critiqués.
Même Trump, il projette une image de virilité exacerbée, non?
Oui. Oui, tout à fait. Puis, de vérité exacerbée, puis il est récompensé par son électorat pour ça.
On va voir le 3 novembre. Il me semble qu'il est très, pas juste récompensé, il est très stigmatisé à cause de son visage orange, ses cheveux bizarres, puis sa taille de baisse, puis ses longues cravates, puis ses petites mains, puis son petit pénis. Je veux dire, tout y a passé là, dans son cas.
Pas jusqu'à dire qu'il est tant stigmatisé. Oui, c'est des critiques qui sont sorties, mais qui s'ajoutent beaucoup plus à des critiques liées à ses idées ou à ce qu'il dit. C'est pas nécessairement... J'en ai pas fait l'analyse.
Ouais,
je pense
faudrait.
Que c'est un peu fort de dire qu'il est stigmatisé à ce niveau-là. À l'inverse, par exemple, un Justin Trudeau qui pleure à la Chambre des communes, ça a fait des manchettes et des manchettes à cause des larmes qu'il a versées.
Vous parlez aussi du fait qu'on met l'accent sur le rôle traditionnel féminin de mère et d'épouse, mais que vous parlez de Stephen Harper dans votre article, mais Stephen Harper a été assez critiqué à cause du fait qu'il a serré la main à ses enfants, qu'il manquait de chaleur, que c'était sans doute un être immonde parce que il était froid avec ses enfants. Est-ce que c'est pas tous les politiciens qui passent à la casserole également?
Oui, c'est
Catherine, oui.
C'est tous les politiciens qui sont critiqués, c'est normal, ça fait partie de la démocratie. Ici, on a le droit de s'exprimer et tant mieux. La chose, par contre, c'est qu'une femme va se faire attaquer de façon beaucoup plus personnelle et virulente, alors même jusqu'au harcèlement, comme on a parlé dans notre texte, Il y a aussi des hommes qui vont s'en tirer avec d'autres choses. Puis aussi, on va les laisser parler leur politique. Les femmes, souvent, on va les couper pour leur poser des questions sur « Ah, mais qui s'occupe de vos enfants? Qu'est-ce que votre mari pense du fait que vous n'êtes pas là? » Et c'est pas les questions que les hommes vont recevoir. Oui, Harper s'est fait ramasser parce qu'il a serré la main de ses enfants, parce qu'il était perçu comme étant froid, pas comme étant perçu tant comme étant un mauvais père. Donc, c'est vraiment pas
ça
la même
chose. Ça peut être une autre façon de le dire. D'être froid, ça peut être une façon de dire qu'il était un mauvais père.
Bien, c'est pas ce qui est sorti dans les médias. Mais à l'époque, c'était plus dans les journaux. Mm-hmm. Pour une femme, on va dire qu'il était une mauvaise mère. Lui, c'était un homme froid.
Mon Dieu, mais moi, ça fait 15 ans que je suis à l'Assemblée nationale. J'ai jamais entendu personne parler de ces questions-là à une femme, ou poser ces questions-là à une femme. Mettons, est-ce que vous êtes, tu sais, qui s'occupe des enfants? Jamais. Je comprends pas.
À Valérie Plante, dans une des chroniques qu'on a analysées, on demandait
Alexis.
Justement comment se passait la répartition des tâches à la maison entre elle et son mari. Donc, c'est quand même quelque chose qui ressort dans les médias. Puis, si je peux me permettre pour compléter le point que Catherine soulevait, c'est qu'on n'a jamais reproché à Stephen Harper de ne pas être compétent pour passer des politiques qui affecteraient les familles canadiennes parce qu'il serrait la main de son fils. Alors que si on prend un exemple, par exemple, Julia Gillard, une ancienne première ministre australienne, qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas mariée. Elle a un conjoint, mais elle n'est pas mariée. Et elle, à l'époque, lorsqu'elle était au pouvoir, elle avait passé plusieurs... C'était 2000... Oh mon Dieu, ça m'échappe dans les...
C'est un exemple un peu étranger. Peut-être qu'on devrait rester au Québec et au Canada.
C'est parce que c'est quand même la première femme première ministre de l'Australie.
OK.
C'est ça. Puis dans le fond, elle avait passé des politiques familiales lors de son mandat. Et dans les médias australiens, on remettait en question sa légitimité, sa crédibilité à passer des politiques familiales parce qu'elle n'avait pas l'expérience d'être mère. On n'a pas vu ce type de choses reprochées à des politiciens pères de famille ou comme Harper qui, parce qu'il sert la main de son fils, il ne serait pas un bon père, mais on n'a pas remis en question les politiques familiales.
OK. Vous avez un passage de François Cardinal dans votre texte, François Cardinal de la presse, sur la fameuse bande dessinée que la mairesse a publiée. Il dit « Bref, au moment où les Montréalais sont à bout de patience, la mairesse de la mobilité leur impose un projet qui ne leur semble pas nécessaire dans le contexte et qui sera dur à justifier cet hiver. » Il parle sans doute du corridor cyclable. Disons-le, Montréal sort traumatisé de la première vague de la pandémie, ce que la mairesse semble sous-estimer en poursuivant ses activités, ses projets littéraires et ses engagements électoraux comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'il y a de sexiste dans ce passage? Ou de biais genré? Ou je comprends pas.
Je crois que dans notre article,
oui, c'est
quand même exprimé assez clairement en démontrant le parallèle entre Harper qui publie un livre qui était quand même attendu. Il y a eu beaucoup d'articles sur le fait que les gens avaient hâte quand même de le lire et qu'ils allaient sans doute en retrouver une copie sous leur sapin de Noël. Quelques articles ont quand même un peu reproché le fait qu'il faisait ça tout en étant premier ministre.
Donc, il y en a eu.
C'était quand même... Oui, mais c'était très minime. Comparé à Valérie Plante, où c'est absolument partout. Et oui, la BD ressort de domaine public lorsqu'il est publié, mais ce qu'elle fait dans son temps libre, lui, revient à elle. Donc, c'est là où c'est genré, puisque la critique est plus grande et on critique ensuite sa capacité à agir en tant que mairesse.
Avez-vous un sondage là-dessus, Alexis, ou quelque chose, des données? Parce que vous écrivez « La bande dessinée de Plante semble déranger davantage ». C'est fondé sur quoi exactement? Est-ce qu'il y a une recension du nombre de textes ou est-ce qu'il y a quelque chose de quantitatif?
Oui, à la base, notre analyse exploratoire de la couverture médiatique, elle est quantitative. On a effectivement recensé les articles principaux, là, qui ont couvert le livre de Stephen Harper. Puis justement, comme Catherine le disait, il n'y avait pas le même traitement qui était annoncé par rapport au livre de Stephen Harper. Puis oui, on peut tout à fait souligner le fait que il y a la COVID, qu'on est dans un contexte particulier. Mais je pense quand même qu'au-delà du contexte particulier de la COVID-19 qui fait que effectivement les gens s'en ont pris un peu au timing de l'annonce de la publication de la bande dessinée, je pense aussi ce qui serait intéressant aussi à creuser davantage, c'est le fait, non seulement c'est une bande dessinée, mais c'est une bande dessinée sur une femme en politique. Donc déjà, le sujet, c'est pas nouveau non plus que les enjeux féministes, les sujets féministes sont souvent relégués à la marge, sont souvent ridiculisés par tout ce qui est un peu plus mainstream. Et donc, je pense qu'il faut quand même se questionner sur, puis moi je suis d'avis, que c'est non seulement parce que Valérie Plante est une femme, là où il y a un biais genré, mais aussi parce que le propos renvoie à l'expérience même d'une femme en politique, mm-hmm. qui est son expérience à elle. Puis c'est là où je pense qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Pourquoi? Entre autres, en raison des biais genrés qu'on peut avoir. Puis, je veux dire, ici, c'est pas une question de critiquer nécessairement les commentateurs en disant que qu'ils ont intentionnellement fait ça. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que ça s'inscrit dans un système.
Les commentateurs politique... ou les commentatrices. Parce que
ou les commentatrices.
Citez, oui, José Legault, notamment, qui parle de son sourire, et Sophie Durocher, entre autres. Ben, écoutez, c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Merci beaucoup, Catherine Sullivan à Sherbrooke.
Merci.
Et Alexis Labelle à Montréal.
Merci.
Toutes deux doctorantes en sciences politiques à l'Université de Montréal. On discutait de leur texte publié dans le magazine en ligne The Conversation et qui s'intitule « Madame Sourire, que dit la couverture médiatique de Valérie Plante? » Au revoir. Et c'est tout pour nous à La Haut sur la Colline. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et à demain.
Cube Radio.